Vous écoutez
RMC. RMC, 18h-20h, Rotten sans flamme, intégrale Coupe du Monde.
Aujourd'hui, quand on voit le soutien des Français, quand on voit la ferveur qu'il y avait autour de nous, quand on voit que notre équipe de France, elle a rassemblé tellement de gens derrière le drapeau, ça fait mal au cœur. Juste pour le drapeau, j'aimerais dire merci à tous ces Français qui ont été derrière nous. Sachez qu'aujourd'hui, on a tout donné, on a tout donné, mais ça n'a pas marché malheureusement.
Benoît Boutron, Jérôme Rotten.
Bon. Elle a pris un coup dans la tronche cette musique. Il est 19h02. On n'est plus à la Coupe du Monde. Du moins, si on y est encore pour ce match cacahuète de samedi. Bon courage pour les joueurs parce que celui-là, il faut le préparer, il faut le jouer surtout. Il faut digérer la claque reçue hier. On est avec Christophe Dugarry, avec Eric Dimeco, avec Benoît Boutron. On a passé une excellente première heure. On remercie encore Renato Civelli d'être venu nous livrer ses impressions sur l'Argentine. Il est assez critique, hein. Il a été très bon, Renato. On le remercie.
Non, il est lucide, il n'est pas aveuglé par ce bon résultat. Il voit aussi qu'en termes de jeu, elle a eu chaud quand même, cette équipe d'Argentine, avec en plus des matchs face à des adversaires quand même qui étaient largement à sa portée, quoi. Donc,
bien sûr, t'as raison. Ouais.
C'est bien aussi d'avoir ce discours et de pas seulement apporter un discours sur l'émotion, quoi. L'émotion, voilà, heureusement qu'il n'y a pas que ça en foot, malheureusement.
Ouais. On reparlera d'ailleurs de cette deuxième demi-finale de Coupe du Monde à 19h45, Angleterre-Argentine, les compositions d'équipe, et on reparlera de ce contexte très particulier entre Anglais et Argentins avec Georges Quirino, notre spécialiste du foot argentin, qui nous rejoindra donc dans une quarantaine de minutes. À 19h30, la VAR de Rotten s'enflamme. Est-ce que la France a perdu contre la meilleure équipe du monde? C'est les propos de Luis de la Fuente, le sélectionneur espagnol, après le match hier. Mais tout de suite, on y va sur un autre débat équipe de France, parce que Didier Deschamps a raté sa sortie hier.
Comment je vous quitte? C'est quoi la sortie?
Le seul conseil que je puisse te donner, c'est soigne toujours tes entrées, soigne toujours tes sorties, et puis au milieu, tu te démerdes.
Et c'est le but! Le but espagnol! Aïe, 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 il fait mal celui-là!
La sortie, c'est la petite chanson qui vous fait pleurer, la petite Madeleine de Proust, c'est ça la sortie.
Pedro Pau, la frappe et le but! Le deuxième but!
Eh bien, la sortie, c'est aussi le fait de juste d'ouvrir la porte et de dire merci monsieur.
Le changement est confirmé, Manu Koné va remplacer Adrien Rabiot.
C'est pourtant le meilleur de cette équipe de France depuis le début de la rencontre.
On a commis plus d'erreurs techniques que ce qu'on avait fait jusqu'à maintenant. Plus Adrien qui était à risque avec son carton jaune, c'est surtout dû à ça.
La reconnaissance est très importante. Dans les émotions pour l'être humain.
C'est mal tiré de la part de Dembélé, c'est pas possible.
On n'a pas le droit là, on a tellement peu de munitions, on peut pas rater des coups de pied arrêtés comme ça, c'est pas possible. Comment revenir dans un match où on... Oh là, Cherki, mais arrête aussi, arrête, fais des trucs simples.
Après, je pose une question et je vais pas y répondre. Est-ce que l'arbitre a le niveau pour arbitrer une demi-finale de Coupe du Monde? On en a eu quelques-uns, voilà, mais je vais pas y répondre.
RMC intégrale Coupe du Monde.
J'étais passé par le temps, je ne...
C'était le dernier objectif de sa longue carrière de sélectionneur. 14 ans qu'il dirige l'équipe de France. Il visait une troisième finale de Coupe du Monde d'affilée.
Enfin, quand ils ont réussi, il faut le faire quand même. Oh là là.
Ils ont réussi quoi?
Ah, énervé Jean-Louis. T'as vu comment il s'est énervé?
Ah ouais, c'est
Jean-Louis.
Dingue. Ah ouais, Cherki, il a poussé Jean-Louis à bout.
Non mais c'est vrai que c'est quand même, tu fais des...
Ah, vous l'avez vu cette action? Ah, vous l'avez cette action, Cherki?
La louche.
La louche. Vous êtes tous dit la même chose.
Bah évidemment, mais nous, t'es pas l'antenne. C'est vrai que tu l'as exprimé plus
j'avais
fort
oublié.
Que nous.
J'avais oublié ça.
Oh, il a craqué. Non,
c'est bien, c'est sorti du cœur. C'est
il a craqué.
De passer.
Ce qui est fou d'ailleurs, quand on regarde le bilan de Deschamps, c'est qu'il a une vraie bête noire avec cette équipe d'Espagne. C'est 4 défaites contre les Espagnols en 6 matchs officiels. C'est même un quart de ses défaites. 16 défaites concédées en compétition officielle et donc 4 face aux Espagnols. Jean-Louis, rappelle-nous ses choix perdants hier et puis aussi sa communication ratée. On l'a entendu notamment sur l'histoire d'arbitrage.
Oui, alors la communication ratée, d'ailleurs, on peut commencer là-dessus parce que c'est le truc le plus frais. Donc, vous l'avez entendu après le match, poser la question. Il dit je vous laisse répondre, mais je pose la question. Déjà, bon, c'est ouais, clairement une façon de dire les choses clairement. Hein, voilà. Donc, il dit est-ce que l'arbitre avait vraiment le niveau pour une demi-finale de Coupe du Monde? La FIFA, d'ailleurs, lui a répondu. Hein, Nicolas Pelletier a eu la réaction de la FIFA il y a quelques minutes en disant bah oui, absolument. Pierluigi Collina a dit oui, il avait clairement le niveau d'une demi-finale. On a des arbitres de classe mondiale, donc en gros, les commentaires commentaire de Deschamps, il aurait pu s'abstenir. Donc ça, c'est hors au micro après le match. Et alors sur le terrain, il y a plusieurs choix qui posent question, effectivement. Déjà la gestion globale de Saliba. Alors forcément, hein, ça finit mal, donc c'est facile de sortir ce genre de choses maintenant. Mais est-ce qu'il fallait vraiment l'emmener avec sa blessure au dos, dont tout le monde a parlé régulièrement depuis le début de la Coupe du Monde, lui le premier en disant qu'il n'était pas à 100%, ça a craqué hier. Est-ce qu'il fallait mettre Tchouaméni alors qu'il était à court de rythme après sa blessure aux adducteurs, et on a bien vu qu'à part jouer le troisième défenseur central, il a eu du mal à avoir un certain abattage au milieu de terrain. Est-ce qu'il fallait vraiment sortir Rabiot? Vous avez vu, je fais comme Didier Deschamps, hein, je pose des questions alors que j'ai les réponses. Ouais. Hein. Est-ce qu'il fallait vraiment sortir Rabiot à la mi-temps alors qu'il avait un carton jaune, alors que c'était le meilleur milieu de terrain en première période, et qu'il a montré, même s'il y a un tacle juste avant la mi-temps, qu'il arrivait quand même à jouer correctement avec un carton jaune? Et est-ce qu'il fallait pas toucher un peu à l'idée générale, c'est-à-dire Mbappé en a parlé, on n'a pas réussi à presser.
Il a fait que du changement poste sur poste, quoi.
Poste pour poste. Est-ce qu'il fallait toucher aux quatre devant et trancher un moment? Est-ce qu'il fallait faire un choix aussi un peu plus difficile au niveau des statuts, parce que c'est pas la même chose de sortir Dembélé. Il aurait pu très bien sortir Dembélé, de sortir Olysée aussi vu leur match hier.
Il est sorti.
Ce dont je parlais tout à l'heure. Alors qu'il avait réussi à le faire avec Griezmann ou avec Giroud en 2022, là, il a pas du tout réussi à casser des statuts. Même Tchouaméni, il peut sortir aussi vu le match qu'il fait, alors que c'est un cadre de l'équipe. Et puis, est-ce qu'à un moment donné aussi, et il fallait pas arrêter de se faire entre guillemets dicter les choix par les joueurs. On a bien compris que les joueurs voulaient jouer à quatre attaquants, qu'ils voulaient jouer haut, qu'ils voulaient presser, mais à partir du moment où on n'y arrive pas, est-ce qu'il aurait pas dû dire on arrête tout ça, l'Espagne ils sont trop forts là-dedans, on va les attendre bas et on va partir en contre. Voilà, c'était toutes les questions qui se posent maintenant autour de Deschamps.
Et c'est donc le thème de Rotten se chauffe ce soir sur RMC. Est-ce la défaite de Deschamps, Jérôme?
Oui, il est responsable, c'est le chef d'orchestre. Donc c'est lui qui fait les choix, c'est lui qui fait son groupe, c'est lui qui donne les statuts et qui nous les fait subir. Parce que je dis subir parce que pour moi, il y a des statuts, il y a des joueurs qui ont des statuts qui ne le méritent pas. Et je sais pas d'où ils les sortent, ces statuts-là. Mais en tout cas, certainement pas par rapport à leur performance sur, avec le maillot de l'équipe de France sur le terrain. Voilà, ça c'est la première chose. Après, à côté de ça, là pour répondre à Jean-Louis et toutes les interrogations, moi je remets pas tout en question, parce que Didier, même si Duga lui est plus dur que moi sur la période de Didier Deschamps, Didier il a beaucoup apporté à cette équipe de France, et encore il aurait pu apporter sur cette Coupe du Monde, parce que il a toujours eu un rôle important dans la lecture des matchs. Il s'est rarement fait dépasser par les événements. Et là, je l'ai senti subir. Alors, c'est pas la première fois. Subir. Je me souviens, moi, ce qu'on avait dit après la Coupe du Monde 2022, où j'avais pas compris qu'il continue. Après, peu importe, l'accord avec le président de la Fédé à l'époque, pour se réinventer, pas de souci. Voilà, pour moi, ces 4 ans-là, il aurait dû s'arrêter après la Coupe du Monde en 2022. Mais bon, ils ont décidé de continuer. Il a essayé, après un Euro 2024 qui n'était pas flamboyant, déjà en termes de résultats, parce que
tu remets pas tout en question, mais tu dis qu'il a fait 4 ans de trop, c'est bon ça quand même.
c'est vrai, oui, mais sauf qu'il y en a eu 10 avant, du gars, donc
les deux premières elles ont pas compté parce que c'était pas encore bien comme il fallait récupérer machin, donc
ce que je veux dire, c'est que en effet je retiens pas tout le bien qu'il a pu apporter à cette équipe de France, même en termes d'image. Après, pour revenir juste sur le match d'hier, là ce qui me surprend le plus, c'est que encore une fois, je c'est pas parce que certains l'ont dit, et j'en ai fait partie, qu'il fallait changer face à cette équipe espagnole, mais franchement c'était criant hier. Et criant, et même si son premier choix c'était de conserver ses 4 joueurs offensifs, pas de problème. Moi je pensais des choses différentes, et c'est pas parce que il l'aurait fait,
on n'est pas sûr du résultat.
Oui, on n'est jamais sûr de toute façon. Ce qui est sûr, c'est que en jouant de cette façon là on est passé à côté. On a pris une leçon, et surtout dans le cœur du jeu. Donc moi, ça m'a dérangé, si tu veux, quand j'ai vu ça dès les premières minutes, la leçon qu'on prenait, et surtout après la faute de Digne et le penalty et l'ouverture du score, je me suis dit mais on est dépassé. Et en fait, forcément, lui, il le voit, il a l'œil pour ça. Du moins, il a fait ça toute sa vie. Oui. Donc, écoute, c'est son point fort. À la mi-temps, il te sort le meilleur joueur, comme l'a dit Jean-Louis tout à l'heure. Il te sort Rabiot pour le préserver.
Et certains vont te dire, oh bah oui, c'est normal, il avait un jaune, donc il était à la limite du rouge. Ah bon, je savais pas que dès que tu prenais un jaune, en fait, que tu pouvais pas finir le match. Ouais. Donc déjà, ça, c'est une première connerie. La deuxième, c'est que t'as affaibli encore plus ton milieu parce que c'était le seul qui arrivait, lui, à rentrer dans les duels et à gratter des ballons. Et en plus, en effet, où tu vois, même si tu veux le conserver sur le terrain, Tchouaméni, comme il jouait, dans ces cas-là, dis-lui, écoute, joue point de basse, il n'y a pas de problème, limite défenseur central, il n'y a pas de souci, mais je vais te mettre un mec à côté qui va être comme Rabiot, qui va rentrer dans les duels. Et là, en l'occurrence, c'était Manu Koné. Et là, il nous fait quelque chose qui ressemble à rien. Et puis le pire, et je finis là-dessus, c'est que le rôle d'Olise, tout à l'heure, on a parlé d'Olise, bien sûr qu'il s'est trompé, bien sûr que Didier peut pas être dans les pieds d'Olise et qu'il doit faire mieux, comme Dembélé doit faire mieux. Il n'y a pas de souci. Ces mecs-là, ils doivent se remettre en question parce que leur Coupe du Monde, elle n'est pas bonne. Elle n'est pas bonne, donc à partir de là, le statut peut-être qu'il a dérangé. Je parle pour Ousmane. Ousmane, je trouve qu'il n'a jamais trouvé sa place dans cette équipe. Même s'il a mis 3 buts contre l'équipe B de la Norvège, j'ai trouvé qu'à chaque match, il était un peu en dedans. Alors écoute, est-ce que c'est la composition d'équipe, le rôle qu'il a dans le vestiaire, sur le terrain, je sais pas. En tout cas, je pense que tu l'as pas mis dans les meilleurs, dans le meilleur état d'esprit et la confiance à son max pour qu'on tire le meilleur d'Ousmane Dembélé. Olise, on peut pas dire ça parce que Olise, en effet, il l'a placé comme son maillon fort, il l'a mis au milieu de terrain en meneur de jeu. Sauf que avec le recul et sur ce qu'on a vu sur les matchs qui comptent et les matchs quand le niveau s'élève, tu te dis que Olise, c'est pas Antoine Griezmann. Antoine Griezmann, il l'a utilisé comme ça la Coupe du Monde en 2022. Où plus ça allait, plus il était bas sur le terrain parce que on fonctionnait, on cassait les équipes adverses, on récupérait le ballon, transition rapide, clac clac, et Antoine il jouait comme un milieu défensif, ouais, voire un stopper. C'est ce qu'on avait dit à la Coupe du Monde 2022 avec Olise. Des fois hier Olise, je l'ai vu à 20 mètres de notre but. Ouais. Je me dis mais c'est pas possible d'utiliser Olise qui est un attaquant droit au Bayern. Il se forme comme ça depuis 2 ans, il est rayonnant, même avec l'équipe de France par moment, et là, de l'utiliser aussi bas sur le terrain, comment lui, il peut pas se rendre compte de ça à la mi-temps? Donc oui, il a une grande part de responsabilité sur ce qui s'est passé hier.
Il a raté son match. Dugas, t'es d'accord?
Ah non, mais tout a été raté. Alors après, tu peux rater des choses. Ça arrive que tu sois pas inspiré sur une première compo d'équipe. Après, t'as la possibilité de changer, de faire évoluer les choses. Et là, c'est là qu'il a été passif et c'est là qu'il a été même inquiétant. Voilà. Et l'explication que tu nous donnes après le match. Alors, ça a jamais été un grand habitué des explications, Didier Deschamps. Mais venir te plaindre pour savoir si l'arbitre, il avait le niveau d'une demi-finale. Moi, j'ai envie de lui poser la question. Mais est-ce que tu penses que ton équipe ou toi, vous aviez le niveau d'une demi-finale? Parce que le sujet, il est plutôt là. Plutôt de se poser la question sur les autres, pose-toi la question sur ton équipe et sur toi et sur tes joueurs. C'était vraiment le sens de cette conférence de presse, à mon avis, qu'il devait y avoir, plus que de s'attaquer à l'arbitre. Après, qu'est-ce que tu veux que je te dis, Didier Deschamps, il a brillé pendant toute sa carrière de sélectionneur de l'équipe de France en négligeant le jeu collectif au profit des individualités. Ça a toujours été ça. Il a jamais su faire jouer ses équipes offensivement, toutes les équipes qu'il a eues. Le seul miracle, c'était peut-être un peu avec Monaco, voilà, où c'était pour le coup, c'était pas trop mal. Mais voilà, c'est la limite de Didier Deschamps. Voilà, c'est la limite. Alors, tu as toujours fait passer pour le plus grand sélectionneur de tous les temps. Ok, très bien, il n'y a pas de problème. Moi, on m'a dit, Deschamps, on joue pas bien, mais on gagne. Voilà, 6 compétitions, t'en as gagné une. À l'arrivée, il a le même palmarès que Roger Lemaire et que Aimé Jacquet. Non, mais au bout d'un moment, je veux bien, moi, ça me pose pas de problème avec les joueurs, avec une génération, avec des générations extraordinaire, avec des joueurs incroyables, avec tout ce qu'il fallait. Voilà, on est arrivé à la Coupe du Monde, on le savait dès le début, ça fait des mois qu'on dit qu'on n'a pas de latéraux. C'est peut-être le sport dans le foot moderne qui a le plus évolué. On me parle du milieu de terrain des Espagnols, mais les Espagnols, chaque fois, ils ont leurs latéraux qui rentrent et qui deviennent un troisième milieu de terrain, que ce soit Porro ou...
C'est Pedro Porro qui marque hier, dans le deuxième but.
Mais bien sûr, au bout d'un moment, c'est pas un problème de milieu de terrain, c'est un problème de latéraux. Nous, on a des latéraux, mais mon Dieu,
On l'avait dit hier d'ailleurs.
Mais on l'a dit, ça fait des mois qu'on le dit, et il va à la Coupe du Monde avec ces latéraux-là. Bon, mais ok, tu t'attends à quoi? Tu voilà. Au bout d'un moment, est-ce qu'il y a un style de jeu préférentiel offensivement? Est-ce que tu sens que cette équipe, elle a une habitude de jeu qui fait que non? T'as une, ça, voilà, ça, là, chaque fois que Deschamps, il a parlé des attaquants, il dit, je leur laisse de la liberté. Voilà, il y a du talent, je leur laisse, ils ont la grande liberté. Mais la liberté, ça veut tout et rien dire. La liberté, tu la donnes quand tu sais plus organiser quoi que ce soit et que tu sais pas comment faire jouer tes gars. Et tu leur as laissé laissé les clés du camion, ok, tu leur as laissé les clés du camion en espérant quoi? En espérant qu'il se passe ce qui s'est passé là. C'est pas une première fois, c'est une deuxième fois que ça arrive face à l'Argentine, c'était la même chose. Il a refusé de faire un bilan de ce qui avait mal fonctionné et ce qui nous avait amené à une défaite cuisante face à l'Argentine sous prétexte de l'émotion. À l'arrivée, tu refais le même genre de match. Donc cette équipe de France, elle aurait dû progresser. Et j'espère qu'elle va progresser à l'avenir sur son collectif. Et bien comprendre qu'aujourd'hui, le collectif ne suffit pas. Alors c'est les grands joueurs qui te font gagner les grands matchs, ça c'est certain. Mais si t'as pas un collectif beaucoup plus certain, beaucoup plus solide, beaucoup plus sûr, avec un style de jeu beaucoup plus identifié, et bien malheureusement, tu peux pas aller au bout contre les meilleures équipes, tu gagnes pas. Alors ça va contre les équipes cacahuètes. Contre les équipes cacahuètes, tu peux toujours faire le malin.
Ouais, mais bon, c'est là que ça compte.
Bien sûr que c'est là que ça compte. Donc oui, il est passé totalement à côté de sa finale. Et moi, bon, je ne serai pas là pour faire le bilan parce que je vais aussi partir en vacances et que j'en ai ras le bol, je te cache pas. Mais pour moi, le bilan, je vais entendre, il est extraordinaire, le palmarès, il a le plus de sélections, le plus de victoires, le plus grand nombre de matchs. Il est resté 72 ans. Mais bien sûr qu'heureusement qu'il a tout ça. Mais je suis désolé. Moi, je m'attendais en termes de palmarès à beaucoup mieux. Voilà.
Et j'ai hâte d'entendre Eric qui dédouane souvent les entraîneurs et qui met la responsabilité sur les joueurs. Est-ce que c'est la défaite de Deschamps hier,
Eric ? Bien sûr que Didier a des responsabilités. C'est bien de faire ce débat d'ailleurs pour parler des trucs qui m'ont choqué. Alors vous les avez évoqués.
L'entraîneur, t'avais sorti à chaque fois, t'avais pris un carton jaune, Eric.
Coach, tu as raison. À finale de Ligue des Champions, vous êtes à la 30e minute dehors. Allez hop, match à la télé.
La frustration, ça aurait été fou.
Surtout que faire péter un bon tac d'entrée pour marquer ton territoire, ça fait partie du jeu aussi, tu vois. Et les mecs, ils ont l'intelligence de savoir quand ils ont pris le carton, de faire un peu attention. Alors après, c'est pas à l'abri. Mais le déficit de perdre Rabiot sur ce match-là par rapport au déficit d'éventuellement le perdre sur un carton rouge, le choix était vite fait pour moi.
Deschamps, en 98, il avait un jaune à la 35e.
C'est le nouveau football, il y a des trucs comme ça. Bon, alors écoute, pour répondre au débat du jour, moi malgré tout, j'ai quand même du mal à encaisser la performance de une grande partie, enfin de la totalité des joueurs et notamment de ceux qui sont qualifiés de tauliers. Sur un match là, c'est eux qui doivent tirer l'équipe vers le haut. Même sur la compo de départ, à la limite, Tchouaméni, on a fait le débat, c'est son gars sûr, tu le mets. Mais tu as le droit à un moment donné de réagir à ce que te propose l'adversaire et à ce que toi tu n'arrives pas à gérer. Voilà. Donc en effet, après le match, c'est facile de dire Tchouaméni, fallait pas le mettre, fallait mettre Koné. Bon, ben oui, on l'a tous vu. Moi, tu m'enlèveras pas de l'idée cette histoire de Rabiot, on n'en parlera plus. Mais comment tu fais pour te passer du seul milieu de terrain qui joue au milieu de terrain et qui colmatait les brèches pour tout le monde? Parce que si Rabiot est sur le terrain, le deuxième but, tu ne le prends pas. Parce que il est toujours dans cette zone-là où il y a eu le 1-2, là, à protéger Digne, à protéger le couloir, à protéger le défenseur. Il est tout le temps là, Rabiot. Il est tout le temps là. D'ailleurs, c'est là où il fait sa faute, là.
La première faute,
c'est là qu'il a fait parce que il est tout le temps en train de colmater les trucs de tout le monde. Voilà. Alors après, tu peux aussi, et je comprends pas. Alors, mais je pense pas que ce soit pour ça, parce que se renier, quand tu prends une décision et que ça marche, tu t'es pas renié.
C'est pas son style.
Ça veut rien dire. Sauf que en effet. Et Dieu sait que dans cette compétition, on a loué sa faculté à lire le match, à anticiper, voir le match, parce que contre le Paraguay, on nous a dit qu'il avait préparé les joueurs à ce qu'ils les attendaient, et c'est peut-être pour ça qu'ils avaient eu cette attitude irréprochable, ils auraient pu sortir du match, ils l'ont pas fait. Donc ça, quand on l'encense sur ce truc-là, on est obligé de se rendre compte que, il a été passif, et moi, en effet, à la mi-temps, quand ça rentre à la mi-temps, je me dis, il va faire rentrer Koné. Il va sortir. Pour moi, il fallait sortir
Dembélé.
Ou Dembélé.
Ouais, ou Dembélé, parce que Barcola, c'est pas le plus nul des trois. Le peu de ballons qu'il a eu en jouant sur sa vitesse, il a fait. Bon, ben, c'est ses qualités, on les connaît. Mais je me suis dit, il va sortir un mec devant et il va faire rentrer Koné. Il va reprendre le milieu de terrain.
Il va m'écouter. Parce que c'est ce que je me suis dit.
Parce que sur les 20 premières minutes,
ouais, c'est pas gros, il a tout raté, quoi.
Sur les 20 premières minutes qui sont plutôt équilibrées, on a vu ce que les deux équipes allaient proposer. On a vu qu'il avait mis son bloc un peu plus bas, qu'il allait jouer les contres et que les Espagnols allaient avoir cette possession qui était plutôt stérile pendant 20 minutes. Et moi ça m'allait très bien. Moi j'avais envie de le voir ce match-là parce que je pense que sans ce but de casquette, on avait les armes. Mais après, si tu fais pas les bons choix au moment où l'adversaire te pose un problème, et si en plus t'as les joueurs qui sont déficients ou qui sont absents et qui te chient dans les bottes, eh ben c'est sûr que ça donne ce qu'on a vu hier soir.
C'est sûr.
Moi, c'est mon grand regret avec Roten sélectionneur. Je suis sûr qu'on allait la chercher cette troisième étoile. Mais bon,
non, mais en fait, jamais. Non, mais
après on accueille Damien.
On plaisante.
Oui,
on
mais
plaisante.
Peut-être que tu aurais perdu sur un des matchs avant aussi non, avec Roten sélectionneur. Non.
Écoute, Eric, peu importe.
Avec Udol et Tolisso.
Et encore une fois, c'est pas dire, mais le rôle d'un consultant, je fais partie comme Eric et comme Dugas.
Donner ton avis.
Comme d'autres. Non, mais c'est de donner son avis, essayer de lire aussi, parce que moi je veux bien qu'on, comme la plupart ils font, ceux qui n'ont jamais joué au football, c'est, ils regardent les matchs, copier-coller, il ne faut pas changer, il ne faut pas se renier, il ne faut pas ceci, il ne faut pas cela, il ne faut pas là. Mais un match de football de très haut niveau, tu as un adversaire en face. Oui. Quand tu as un style, et Dugas t'en parlait, très identifié comme l'Espagne, on n'est pas surpris, ça fait 20 ans, 25 ans qu'ils jouent comme ça. Donc de toute façon, l'Espagne, c'est leur point fort. Les 1, 2, 3 et tout ça, rappelez-vous, et c'est votre période aussi, le jeu à la Nantaise, Jean-Claude Ciodo, Reynaldo Noex à la formation. Comment ils jouaient au football, les Nantais? Toujours le porteur de balle, il avait 2-3 solutions, les fameux triangles et tout ça. Et hier, c'était vraiment exactement ce qui se passait pour les Espagnols. En plus, ils étaient à la perfection sur le match d'hier, il faut reconnaître. Donc quand tu sais que tu vas avoir ça face à toi, oui, mais putain, c'est pas une question de se renier.
Mais
c'est pour ça, Dugas.
Il n'y a pas de plan. Il y a pas. Ils vont jouer, bien sûr.
Jérôme, tu nous expliques que les Espagnols...
Non, moi j'explique rien.
Mais tu nous expliques à nous là maintenant, on parle là entre nous là, non?
Ah, d'accord,
que je sache,
oui, d'accord,
tu nous expliques à nous,
non, mais je croyais que tu me disais.
Voilà, tu nous dis les Espagnols, ils sont sûrs de leur force, ils met sa compo quoi qu'il arrive, il y a Mbappé, Dembélé, Olise,
peu importe, ils vont jouer comme ça, c'est
le Pichichi, voilà. Le machin, bim, le mec, et pourquoi nous on ferait pas pareil?
Parce que le jeu il est pas identifié. On sait pas comment on va jouer. Eric, en fait, on ne sait jamais.
Hier soir, on a compris ce qu'il voulait faire au début. Moi, la compo qu'il met au début avec le fait de garder ses quatre devant, moi, pour moi, ça ne me pose pas de problème. On a des certitudes qui en étaient pas finalement, mais qu'on avait après les matchs qu'on a fait en début de compétition. On y va. On la joue comme ça. Allez, on va baisser le bloc, on va jouer en contre. Mais par contre, si à un moment donné ça marche pas, c'est là où par contre il faut changer.
Tu as droit
à 5 changements aujourd'hui. Le métier de coach, il est devenu, alors je vais pas dire plus simple,
mais tu as quand même le droit
de te tromper maintenant quand tu es coach, parce que tu as 5 changements.
Oui, parce que tu as le droit de changer.
C'est vrai. Donc pendant 20 minutes, tu te trompes pas, tu prends un but de casquette. Moi j'aimerais qu'on en parle de ce but quand même.
Parce que pendant 20 minutes, Eric, tu te trompes. Moi, même si on faisait jeu égal, on n'est pas dangereux. On n'est pas.
Eric, tu sais pas comment ça va se passer.
Eric, j'ai la réponse, je sais ce que. Sauf si t'es mauvaise voix. Mais quand tu joues avec 4 joueurs offensifs comme on joue, on peut pas se dire avant le coup, on va jouer bloc bas avec 4 joueurs offensifs. T'es d'accord avec ça ou pas?
Non, mais oui, mais il était pas si bas que ça, mais il était plus bas que dans le sud, en effet. Mais il était pas devant les 18 mètres.
Mais donc quand tu joues avec 4 joueurs offensifs, et j'ai eu la chance de jouer dans des équipes où des fois on était 4 joueurs offensifs, en effet, t'es obligé d'avoir un bloc assez haut pour récupérer assez haut le ballon pour te retrouver dans des bonnes positions qui sont tes positions fortes. Non, mais si, mais comment ça?
Pour faire ça, tu veux faire ce que le PSG fait, que Enrique a mis.
Est-ce que
tu
n'as jamais travaillé sur toi?
Et bien alors, dans ces cas-là, si tu ne sais pas le faire, et bien si tu ne sais pas le faire.
Mais pas que tu ne sais pas, mais on verra. Mais on verra. Tu sais, moi, je veux bien qu'on prenne, pour exemple, l'Espagne, qui est quand même une nation particulière.
Non, mais moi, je veux pas qu'on prenne.
Regarde les Anglais comment ils jouent.
Non, mais attends, Eric.
Comment ils jouent en sélection nationale. Eric, tu verras le niveau général, tu verras.
Mais Eric, je suis d'accord avec toi, 100% d'accord avec toi. Moi, je dis pas qu'il faut copier le jeu espagnol. Le jeu espagnol, il est très identifié, très bien. Nous, on a montré quand même, parce qu'on a été champion du monde il y a pas si longtemps que ça, et bien après les Espagnols, donc il y a pas de souci de ce côté-là, qu'on pouvait gagner la Coupe du Monde. L'Argentine a gagné la Coupe du Monde sans jouer comme l'Espagne. Donc il y a plusieurs façons de jouer au football. Nous, notre identité de jeu en France, c'est pas le jeu à l'espagnol, on est d'accord. Donc quand certains te disent, ah ben oui, on a pris une leçon, ah ben oui, mais on a, j'ai entendu hier, je sais plus qui a dit ça, on a 20 ans de retard sur le jeu. Non mais comment tu peux tenir ce discours-là? C'est pas possible ça, de dire qu'on a 20 ans de retard sur le jeu espagnol. Mais on jouera jamais comme les Espagnols, et on en a rien à faire, on veut pas jouer comme ça. Mais il y a une façon, en effet, pour gagner les matchs, et Deschamps le sait, parce qu'il a ça en lui, même si on a gagné, comme tu disais Duga, une seule compétition sur les 6 qu'il a eu à jouer avec l'équipe de France, n'empêche qu'il a gagné. Donc il sait comment gagner, et moi c'est ça que je lui reproche.
Toutes nos excuses à Damien, on n'a pas le temps de le prendre. Tu rappelles quand tu veux Damien pour participer à Rotten sans flamme. Merci à Jean-Louis Tour qui était en direct des États-Unis.
Ciao les gars.
Jean-Louis qui va donc commenter le match pour la 3e place samedi à 23h.
Allez, quel bonheur.
C'est où
3h
Jean-Louis.
On est trop à Miami.
Non mais lui pour qui il se prend maintenant une finale, une petite finale de la Coupe du Monde, le mec qui fait.
Ah ouais,
mais ça me déconne.
Petite finale, qu'est-ce que c'est que ça? Qui se rappelle des 3e de Coupe du Monde, franchement?
Jean-Louis, ça sera.
Tu vois, Benoît, ne prends jamais le melon comme ça. Un jour, tu vas devenir comme Jean-Louis. Ne prends jamais le melon comme ça.
Oh, mais déjà, ça y est. Jean-Louis, c'est en direct ou en différé le match?
Non, c'est en direct. Mais après, je fais la finale le lendemain quand même.
Bah voilà, quand même.
Ah, tu retournes à New York.
Eh oui. Back to back. Incroyable.
Celle-là, elle est magnifique.
Magnifique. Merci, Jean-Louis. Bonne soirée à toi.
Bravo, Jean-Louis. Et bravo.
Et dans un instant, la barre de Rotten.
Et embrasse Cherki.
Voilà, exactement. Est-ce que la France a perdu face à la meilleure équipe du monde? 32-16, à tout de suite.
RMC, 18h-20h, Rotten sans flamme, intégrale Coupe du Monde.
Tout de suite, Jérémy Doku qui va les défendre. Oh non, la frappe croisée, le but! Oh, hier, ça va, alors Fabien Ruiz! C'est Fabien Ruiz qui était là!
Benoît Boutron, Jérôme Rotten.
19h32 sur RMC, la dernière demi-heure déjà de Rotten sans flamme. Elle est passée vite cette émission, ben pourquoi? Parce qu'on est en débrief de France-Espagne, il y a beaucoup de choses à dire. On pourrait faire 10 heures d'émission.
Et pourquoi pas?
Ouais, bon, apparemment Dugas il a pas envie parce qu'il est déjà en vacances. Donc on est avec Christophe Dugarry. Encore Dugas, t'en fais pas encore 20 minutes hein. Voilà,
ça va aller, t'inquiète pas.
Ça va aller. Ça va être dur Dugas ou tu bosses encore un peu quand même?
Non, ça y est, c'est fini là.
Ça y est, c'est fini. J'en peux plus.
Non, mais toute la compétition, je me suis. Oh là là, je ne pourrais pas dire, je me suis fait. Voilà. Ouais. Ennuyé. Et là, j'attends ce match avec impatience. Et là, on se fait humilier. Je peux te garantir que c'est du monde. Non, mais là.
Et là, tu prends un coup dans le.
Ah non, mais j'avais l'impression que le pampan cucu, c'est moi qui le prenais. Non, mais c'était.
Ah, Etienne, mais les pampans cucu, toi. Je me souviens.
C'était la grande question que je me posais. Mais non, écoute, non. Quelle Coupe du Monde de Dom.
Bah attends, tu vas te régaler ce soir, Angleterre-Argentine.
Ouais.
On en parlera d'ailleurs à 19h45. Ah quand même, faut aimer
avec
le foot.
Un peu de chance, 0-0, prolongation.
Il va nous dégoûter de notre demi-finale de ce soir. Voilà.
Ouais, c'est vrai.
Voilà. Si t'es dégoûté, non, ne dégoûte pas les autres.
Voilà, oh.
Allez, 19h34, Jérôme, l'arbitre vidéo t'appelle.
Jérôme, je t'invite à écouter ça.
Nous avons peut-être affronté l'une des meilleures sélections du monde, mais ils avaient en face d'eux la meilleure équipe du monde. J'ai toujours dit que pour moi, le footballeur espagnol est le meilleur du monde. Il sait parfaitement comment agir, en attaque et en défense.
La VAR de Rotten sans flamme.
L'analyse de Luis de la Fuente, sélectionneur espagnol après la qualif de la Loja hier pour la finale. Ah bah oui, c'est intéressant, tout à fait.
Il parlait de l'intelligence, de la compréhension du jeu des joueurs espagnols et tout ça.
Non mais il a parlé de sélection et d'équipe, c'est pas le hasard ce qu'il dit.
Et puis qui va lui donner tort? Ça va être le débat qu'on va ouvrir dans un instant. On rappelle que ce sera la deuxième finale de Coupe du Monde pour l'Espagne. Ah bah tiens, on a hâte d'entendre ça. La dernière fois, ils avaient gagné en 2010. Et on peut accueillir notre drôle de dame espagnole, Edgar Grolo, qui est là. Salut Edgar.
Edgar. Salut Benoît, salut tout le monde.
Parce que dans la presse en Espagne, on s'est régalé de cette demi-finale et d'avoir donné une leçon à l'équipe de France.
Ouais, bien sûr, ils sont comme des fous depuis hier, comme des fous. C'est une leçon pour le monde, écrit le journal AS par exemple. Il estime que l'Espagne a conquis l'admiration et le respect des fans de football du monde entier et donc sûrement de Rotten sans flamme aussi. Marca est un peu plus poétique en écrivant que La Roja a ouvert les portes du Prado et du Louvre pour atteindre sa deuxième finale de Coupe du Monde. Prado, El País parle d'une démonstration prodigieuse qui a abasourdi la France. Pour résumer, le message est très clair en Espagne. On a la meilleure équipe du monde et de loin, tous les supporters que j'ai croisés hier aussi sont persuadés de mériter de gagner le mondial, persuadés aussi que la France est très en dessous en tant qu'équipe par rapport à eux. Et pour terminer, je vous laisse avec quelques mots du Mundo Deportivo, une phrase qui nous fait assez mal, on va pas se mentir. C'était le 14 juillet, jour de la fête nationale espagnole.
Merci Edgar. La VAR de Rotten sans flamme, est-ce que la France a perdu face à la meilleure équipe du monde, Jérôme Rotten?
Écoute, sur le match d'hier, il n'y a pas eu photo. Si on part du principe, et on l'a tous dit qu'au début de la compétition, la France et l'Espagne faisaient partie des deux favoris de la Coupe du Monde, on a eu la preuve hier que la meilleure équipe a gagné. Sur le match d'hier, mais encore une fois, moi je reste sur l'analyse du match d'hier, je ne veux pas aller plus loin, parce que je reste persuadé.
Tu ne dirais pas ce soir, ils vont être champions du monde.
Non, parce que en fait, cette équipe, elle peut être contrariée face à des adversaires qui vont essayer de la casser, du moins de la casser, façon de parler,
de la bloquer.
Oui, de la perturber. Et ça a déjà été le cas sur cette compétition.
Ouais.
D'ailleurs, il y a eu plein d'équipes qui ont posé des problèmes à l'Espagne. Rappelle-toi les deux dernières, le match du Portugal, Portugal-Espagne était catastrophique.
La Belgique
était catastrophique, ce match-là. Ouais,
et puis la finale de dernière Euro.
En plus, contre l'Angleterre. Exactement. Donc non, mais cette équipe, elle est prenable. Contre nous, en effet, on a du mal, il faut reconnaître.
Ah ouais.
Il faut reconnaître
nous, on a pas les billes, ça, c'est sûr qu'on n'a pas la recette.
Exactement.
Ça, c'est
sûr exactement. Que, tu vois, la recette des joueurs. Alors, est-ce que
c'est. Deschamps l'a pas toujours.
Ouais, c'est plus ça. Ouais. Je pense qu'individuellement, on l'a pas. Et le match d'hier, de toute façon, même si on en revient toujours à la même chose, même si tactiquement on avait fait des choses différentes pour essayer de les contrer, quand tu vois le niveau de performance individuelle de nos joueurs hier, ouais. Je pense qu'il n'y aurait pas eu photo dans tous les cas. Et eux, en plus, hier, ils étaient au taquet. Alors bravo. Bravo d'avoir réussi ce match-là. Bravo aux sélectionneurs d'avoir fait en sorte que ces joueurs tirent le max et physiquement soient au top pour une demi-finale de Coupe du Monde. Nous, on a senti qu'on avait pioché aussi physiquement. C'est la réalité. Après, tu vois, moi, j'ai été agréablement surpris de retrouver un Rodri à ce niveau-là, de retrouver un Ruiz en sélection à ce niveau-là. Même avec le PSG, ça faisait longtemps que je ne l'avais pas vu aussi fort que
bien
ça.
Bien géré sa saison, celui-là.
Très bien, très bien. Ben, comme quoi, toutes les infos qu'on avait données.
Pour la finale.
Rappelle-toi les infos au mois de mars quand il prenait le temps et que j'avais.
Bravo
j'avais
Fabien. Dit,
attention, il a re-signé son contrat. Maintenant, il est focus sur la Coupe du Monde.
Allez, ben, ça a bien marché. Coupe du Monde.
Ça a bien marché. Après, à côté de ça, on pourrait sortir d'autres joueurs, mais même défensivement, Coubarsy et Laporte, ils ont été énormes. Ils ont pas perdu un duel. Bon, bah écoute, excuse. Ce que je veux dire sur le match d'hier, ils ont dégagé beaucoup de force. Et c'est vrai que quant à cette justesse technique de cette équipe espagnole hier, de tous les joueurs, les uns avec les autres. Oui, moi c'est le football que j'aime. J'aime voir ça. Oui. J'aime voir. C'est pas de la possession à outrance qui n'avance pas. Là, c'était fait pour faire mal à l'adversaire, les faire courir, et puis surtout essayer de finir offensivement par des choses intéressantes. Franchement, hier on a quasiment tout eu. Là, ils avaient été très bons contre l'Autriche.
Oui.
Ils avaient gagné 3-0, mais c'était 16e, que l'Autriche. Mais comme par hasard, pourquoi je te dis ça, c'est que quand tu veux mettre ton jeu en place comme la France l'a fait hier. Comme l'Autriche l'a fait, parce que le sélectionneur de l'Autriche, avec les moyens du bord, il a ouvert un peu le jeu. Ouais. Il voulait jouer, c'est sa stratégie, le contre-pressing, il adore ça lui. Donc il a essayé, mais bon, ils ont pas les joueurs qu'on avait aussi et franchement, ils ont été fabuleux. Bon, maintenant, écoute, oui, c'est les meilleurs sur le match d'hier. Et pour l'instant, c'est l'équipe qui m'a fait la plus forte impression depuis le début de la Coupe du Monde.
Duga, est-ce qu'on a perdu face à la meilleure équipe du monde ?
Non mais c'est pareil, on a fait ce débat il y a quelques jours sur l'équipe de France et regarde, l'équipe de France, ouais, tu seras la meilleure équipe du monde. Non mais tu seras la meilleure équipe du monde quand dimanche soir tu soulèveras la coupe. Je suis désolé, mais c'est une réalité. Alors après que qu'on puisse parler du jeu collectif incroyable de l'Espagne depuis ces 20 dernières années ou 30 dernières années, tu peux remonter à ce que tu veux, ben c'est peut-être l'équipe qui a le plus de régularité à ce niveau-là. Moi j'ai beaucoup aimé l'analyse de La Fuente où il explique le sens du jeu, le sens du déplacement, la lecture du jeu des phases défensives, offensives des joueurs espagnols, que c'est dans leur ADN, dans la formation, dans les académies et tout ça. Je trouve que c'est plutôt intéressant et c'est vrai que les joueurs espagnols, on sent qu'ils ont une intelligence de jeu, de déplacement, il y a quelque chose d'à part. C'est sûr qu'ils sont très très forts à ce niveau-là. Après, te dire que c'est la meilleure équipe du monde, ce qui est sûr et certain, c'est que c'est pas nous. Ça, c'est sûr que c'est pas nous.
Duga, on avait fait le débat ensemble.
Nous, on a les meilleures individualités du monde, peut-être.
Ouais, mais pas la meilleure équipe du monde. Ouais.
Rappelez-vous, après le France-Paraguay, on avait eu le débat et tu nous disais être supporter paraguayen, ça doit être horrible parce qu'on te propose ça, etc. En revanche, être supporter espagnol, ça doit être pas mal d'avoir une équipe nationale qui joue comme ça et qui te régale. Duga, là, ça doit être beaucoup plus plaisant d'être protagoniste comme ça des matchs, quoi. C'est ça le truc.
Ouais, puis si tu es espagnol et supporter du PSG, tu as passé une belle année, non?
Ah ouais, bah, ça c'est sûr.
Le PSG, ça joue bien. Hein.
C'est l'année idyllique. Qu'est-ce que t'en penses, toi, Eric? C'est la meilleure équipe du monde?
Écoute, moi j'aime la subtilité dans la déclaration de La Fuente. Quand il dit, ils ont une des plus grandes sélections, il dit.
Sélection.
Et nous, on est la meilleure équipe. Ça veut tout dire, en réalité. Ça veut tout dire. Et moi, je suis d'accord avec lui. L'Espagne est la meilleure équipe du monde. C'est pas pour ça qu'ils gagneront peut-être la Coupe du Monde, parce que ils peuvent tomber dans un match contre notamment des Argentins qui vont leur proposer peut-être un combat que nous on n'a pas été capable de leur proposer et qui grippera la machine. Mais en équipe, ce qu'ils font collectivement et leur manière de jouer, on en parlait tout à l'heure sur l'identité de jeu, c'est la seule nation qui propose ça, et ça peut s'expliquer d'ailleurs, hein. Mais tu regarderas les Anglais, ce qu'ils nous ont fait depuis le début de la compétition, il y a beaucoup quand même de daube dans ce qu'ils nous ont fait dans le jeu. Ils ont été sauvés par Bellingham et par les Argentins, on file des nions et puis Messi il fait le reste, et Dieu sait que cette année il fait plus le reste que la dernière fois. Jérôme, tu as raison de le dire, ils se sortent sur des éclairs, Julian Alvarez qui va te mettre une lucarne du coin des 18 mètres, un truc, Messi qui te fait des contrôles par-dessus sur des places de 32 mètres, par-dessus le défenseur dans les 6 mètres, que la balle elle reste collée. Bon, ça il sait le faire. Voilà, donc mais en tant qu'équipe, non mais là il y a pas débat, hein. Il y a pas débat et ils peuvent même perdre dimanche soir, hein. Mais il y a pas débat pour moi sur la meilleure équipe du monde, c'est la meilleure équipe du monde.
Vous vous dites pas avec la confiance engrangée, ils ont de fortes chances d'être champion du monde dimanche. Ça on sait pas encore, il faudra attendre.
D'après moi ils sont favoris, on s'appellera pour donner les cotes si tu veux dimanche.
Ils sont favoris,
ils le seront.
Bien sûr, ils sont favoris.
Après ça veut pas dire que tu gagnes d'être favori.
Et juste dans la
question là-dessus. Mais là Eric, tu vois, moi je suis assez d'accord avec toi, c'est juste sur le terme meilleure équipe du monde, un peu comme Duga ce qu'on disait. Meilleure équipe du monde, en fait, c'est l'équipe qui représente le mieux le football
collectif.
Le football collectif, le football de passe. Ouais. Le foot, c'est un sport collectif, fait de passe, un bon contrôle, une bonne passe. C'est vrai que ils ont tout, les Espagnols, pour ça. Donc c'est très ludique, c'est très ça peut être très spectaculaire. La preuve hier, franchement, c'était fantastique de voir qu'il y a aucun déchet, que les passes arrivent, que les contrôles sont bons, la protection de balle. Moi, tu vois, je reste hier Duga et Eric sur la rentrée de Pedri. La rentrée de Pedri, pour moi, elle est exemplaire. Franchement, t'as vu ce joueur-là, il fait 60 kilos. Ouais. T'as les Golgoth français là à côté qui essayent, les Tchouaméni, les Koné, qui essayent de venir le bousculer. Il fuit les duels. Hop, toujours le bon petit contrôle, tac, au dernier moment, paf, et le 1-2.
Rodri, il est inattrapable.
Non, mais c'est pour ça. Donc, ce que je veux dire, c'est que ça représente tout ce qu'on aime du football. On a appris à jouer au football, la plupart, comme ça, avec ces conseils-là, ces consignes-là. Mais pour autant, c'est pas forcément parce que t'as cette identité-là que t'es la meilleure équipe du monde. La meilleure équipe du monde, du gars, je suis d'accord avec toi, c'est celle qui gagne la Coupe du Monde. Et peut-être que, en effet, on en a eu des exemples, même ceux qui gagnent la Ligue des Champions par moment. C'est pas forcément l'équipe qui joue le mieux au football qui gagne la Ligue des Champions. Ouais. Non, qui a une stratégie très forte, avec un collectif très fort, où les joueurs se sentent très forts. Les Argentins, et on le voit, les Anglais, pareil, se sentent très fortes. En jouant d'une certaine façon.
Et on en parle dans un instant, 19h45. Donc,
si tu fais jouer les Espagnols comme les Argentins, les Français ou les Anglais, ils sont morts, les Espagnols.
On va lancer l'avant-match de cette demi-finale Angleterre-Argentine à Atlanta ce soir. Vous aurez les compositions d'équipe grâce à Aurélien Tiercin. Petit teasing, il y a une surprise de chaque côté. Côté anglais et côté argentin. Et puis on en parlera surtout de la portée historique de ce match avec Georges Quirino Chavez, notre spécialiste du foot argentin. Et à tout de suite sur RMC.
RMC, 18h-20h, Rotten sans flamme, intégrale Coupe du Monde.
Jude Bellingham dans la surface de réparation. Oh Bellingham, le but anglais, c'est le sang-froid, c'est la classe de 007 Bellingham.
Benoît Boutron, Jérôme Rotten.
19h46, on y est presque à 1h15 du coup d'envoi de Argentine-Angleterre. On va avoir les compos dans un instant. On est avec Christophe Dugarry, avec Eric Dimeco et avec Benoît Boutron. On a passé une excellente émission, on vous remercie pour votre fidélité. Mais on est encore là, 10 minutes, vous allez tout savoir sur le match du soir.
À partir de 20h, l'After Live intégrale Coupe du Monde avec Nicolas Jamin autour de cette deuxième demi-finale de Coupe du Monde entre l'Angleterre et l'Argentine. Retrouvons tout de suite Aurélien Tiercin en direct d'Atlanta. Salut Aurélien.
Salut les amis, salut à tous.
Salut Aurélien. Aurélien, on a teasé une surprise de chaque côté. Donne-nous les compos officiels pour ce soir.
Alors côté anglais, on a Morgan Rogers qui est titulaire aux côtés de Jude Bellingham. Donc on a voulu les opposer depuis des mois et des mois. Thomas Tuchel préférerait Morgan Rogers à Jude Bellingham. Eh bien on a les deux sur le terrain avec Anthony Gordon et Harry Kane, Anderson Rice au cœur du jeu. Et puis derrière, Rhys James récupère enfin son poste de latéral droit. Jed Spence est titulaire sur le côté gauche. Mark Gay et John Stones. Donc l'autre petite surprise côté anglais, c'est Ezri Konsa, le défenseur d'Aston Villa, qui sort de l'équipe titulaire. Pickford dans les cages, bien évidemment. Côté argentin, Messi, Alvarez et Giuliano Simeone. Il est titulaire pour une demi-finale de Coupe du Monde. Ça sera sa 15e sélection. On ne l'a quasiment pas vu pendant ce mondial. Donc ça, c'est la surprise. Sinon, on a Enzo Fernandez, Paredes et Alexis McAllister. Donc Rodrigo De Paul commencera sur le banc des remplaçants. Derrière, c'est classique. Tagliafico et Molina sur les côtés. Romero, Lisandro Martinez dans l'axe de la défense. Et Dibu Martinez, évidemment, dans les cages.
Aurélien, est-ce que le stade sera argentin ou anglais ce soir ?
Alors je pense qu'on est largement sur une vague argentine. Je peux pas encore évaluer parce que tout le monde n'est pas rentré, mais dans la rue il y a eu un énorme cortège ciel et blanc. Les Anglais ils sont là, mais globalement ils se font manger quand même par les Argentins. Tiens, ben moi aussi je me fais bouger par des collègues argentins.
Ah bah voilà, ça y est, il se fait bouger Aurélien Tiercin.
Allez Aurélien, allez, vas-y.
Et il se fait bouger notamment par Georges Quirino Chavez, notre spécialiste du foot argentin.
Ah, il est là, des grandes gueules
du sport le week-end.
Il est où l'Argentin ?
Salut Georges.
Les amis, je suis pas très costaud moi en revanche.
Bon. Oui, Georges, regarde. Ça, on le sait. Hein.
Pedri, il est pas costaud, mais il s'est pas bougé. Hein. C'est Jérôme qui l'a dit il y a quelques minutes. Ouais. Georges, avant de parler de la portée historique de ce match, grand rendez-vous attendu par toute l'Argentine, les choix sportifs, déjà, t'as été surpris de voir Simeone titulaire sur ce match ?
Ah bah comment ne pas être surpris effectivement, parce que c'est un joueur qui a très peu de sélections. Il l'a dit Aurélien, il a seulement 12 sélections, 14. Il a joué 70 minutes contre la Jordanie. C'est un garçon qui est arrivé sur la fin de la phase de qualification avec l'Argentine. Il n'était pas lors de la dernière Copa América. Et puis surtout, on imaginait mal Scaloni se séparer l'un de ses hommes de base. Hein. Vous savez que l'une des critiques qu'il y avait depuis le début de la semaine, c'est la première fois que Scaloni était vraiment critiqué depuis 4-6 ans, c'est qu'il ne touchait pas à ses héros de 2022, qu'il laissait les joueurs malgré des performances un peu moins bonnes. C'était le cas notamment de De Paul et peut-être d'Enzo Fernandez. Et là, le fait qu'il enlève celui qui a été le moteur il y a 4 ans, celui qui est le garde du corps de Messi, c'est un message fort et c'est un message symbolique aussi, je peux vous dire, pour les Argentins, qu'un Simeone joue contre l'Angleterre. adversaire. Son papa en 98 avait fait expulser David Beckham. Et évidemment, vous savez que les Argentins, ils sont dans la recherche de symbolique à tous les niveaux. Et de voir le fils du Cholo être titulaire aujourd'hui avec évidemment ses caractéristiques pour forcer peut-être des défenses et avoir une attitude un peu plus verticale, ça plaît pour l'instant aussi à un élan populaire qui voulait voir De Paul sur le banc. Ça correspond à ce qui était demandé en Argentine.
Il y a une sacrée dimension extra-sportive entre l'Angleterre et l'Argentine. Sur le terrain, il y a eu des rendez-vous mythiques. Le premier, c'était 66, le quart de finale remporté par les Anglais 1-0. Les Anglais qui avaient décroché d'ailleurs la Coupe du Monde cette année-là. Le deuxième, c'est 86, souvenez-vous, avec le but du siècle, Maradona, le but de la main et ensuite le slalom magnifique au Stade Aztèque. On en a beaucoup parlé depuis le début de la Coupe du Monde. Et surtout, le contexte de l'époque, c'était la fameuse guerre des Malouines. Donc, cet archipel au large de l'Amérique du Sud que les Argentins ont contesté aux Anglais. Il y avait eu beaucoup de morts à l'époque, 2/3 des morts argentins d'ailleurs. Georges, on l'a senti avec Renato Civelli tout à l'heure, mais il y a une vraie portée extra-sportive et une motivation supplémentaire pour les Argentins ce soir.
Il faut savoir qu'il y a deux choses qui unissent vraiment tous les Argentins, qui est un pays habituellement très divisé. C'est la sélection, sur laquelle ils sont tous d'accord, et la revendication des îles Malouines. Donc c'est quelque chose qui est très important dans l'ADN argentin. Vous allez à Buenos Aires et vous voyez un petit peu partout, même encore aujourd'hui, des panneaux de rue au nom des Malouines, des restaurants, plein de choses. En mémoire aussi des soldats qui sont morts, hein, il y en avait 649 quand même. Et c'est vrai que voilà, c'est quelque chose d'important évidemment dans la confrontation face à l'Angleterre. Alors Scaloni, vous l'avez certainement entendu toute la semaine, a dit « ce n'est qu'un match de foot ». Et encore hier, il avait presque les larmes aux yeux en disant « mais est-ce que vous pensez vraiment que les mecs qui sont en face de nous aujourd'hui ont quelque chose à voir avec ce qui s'est passé en 82, évidemment que non. Les joueurs également l'ont fait. Rodrigo De Paul a dit voilà, on ne va pas régler ce qui ne s'est pas réglé par la diplomatie sur le terrain. Mais si les joueurs ont tenu ce discours, je peux vous dire que dans les discours populaires, chez les supporters, chez les suiveurs, c'est quelque chose qui compte. C'est pas la guerre, ce match, très clairement, c'est pas une revanche, c'est des mots qui ont été très importants, mais c'est un match à ne pas perdre pour le peuple argentin, pour ce qu'il représente en termes de symbolique. Et il y a de ça aujourd'hui. Vous savez que les drapeaux qui revendiquent les Malouines ont été interdits à Atlanta. Ça fait vraiment, ça rend triste énormément de supporters argentins. Mais c'est une revendication qui est tellement importante qu'aujourd'hui, ça va être présent. Évidemment, c'est un match de football. Mais voilà, il y a ça, il y a les Malouines. Il y a le match de 86 qui est diffusé partout depuis 5 jours. Et la main de Maradona est le but du siècle. Et je peux vous dire que ce matin, à Buenos Aires, devant le dernier domicile de Maradona, il y a des milliers d'Argentins qui défilent avec une bougie, avec des offrandes et qui prient et qui demandent à Diego de les aider depuis le ciel pour les aider sur ce match si particulier, sur le match face aux Anglais.
Et vous avez été joueurs tous les trois et internationaux français. Est-ce que ça peut compter comme ça, l'extra sportif, Eric ? Qu'est-ce que tu en penses, toi, de cette motivation supplémentaire pour l'Argentine ?
Non mais les Argentins, on sait que ils aiment ça, ils cherchent toujours à se resserrer derrière quelque chose. Alors il y a 4 ans, on a dit qu'ils se sont resserrés derrière Messi pour qu'ils soient champions du monde et qu'ils avaient cette mission-là et qu'ils étaient prêts à se saigner pour lui. Voilà, c'est un peu dans leur ADN et surtout comme ils sont vachement dans le combat et dans la fierté, tu penses bien que même si il y a ce discours-là, ils vont user de ça et parce que c'est dans leur gène. Voilà. Après, c'est vrai que c'est qu'un match de foot et que ça se jouera peut-être aussi au talent. Et Dieu sait qu'ils en ont aussi, quoi, comme les Anglais. Donc c'est pour ça qu'elle est très ouverte cette demi-finale finalement.
Duga, tu crois à un impact de toute cette histoire extra-sportive ou pas?
Bah, j'espère pas parce que j'aime pas quand on mélange tout ça. Voilà, je peux comprendre pour les supporters, mais ça, en général, ça touche pas les joueurs. On n'est pas là. Il y a suffisamment de pression, suffisamment de tension. L'objectif est suffisamment important. Jouer une finale de Coupe du Monde comme objectif, ça suffit à soi-même, quoi. Il n'y a pas besoin d'en rajouter des caisses. C'est un truc de supporters, de journalistes qui romancent un peu l'affrontement.
Je suis pas sûr,
enfin, l'affrontement. Ouais, mais moi ça me saoule. Voilà, pour tout te dire, ça me saoule. Je peux pas mettre à la place des Argentins et des Anglais non plus, voilà, c'est pas mon histoire. Mais j'aime pas quand on mélange tout. Écoute, ces dernières semaines et ces derniers mois, on a tellement mélangé.
la politique avec le foot, que me ressortir un truc comme ça à la veille d'une demi-finale qui est plus que passionnante, j'ai pas envie de l'entendre. Voilà. Il y a trop de politique dans le foot depuis bien trop longtemps, du racisme, de la politique, des magouilles, des machins, des ci, des là. Donc j'ai pas envie d'entendre ce discours-là. J'ai envie de voir un bon match de football et tout le reste, ça m'intéresse pas. Voilà.
En fait, plus que de la politique, excusez-moi les gars, c'est plus en fait les joueurs. Alors vous savez que l'Argentine, en plus, c'est un pays qui économiquement et socialement vit de crise en permanence. L'inflation est à des niveaux terribles actuellement. Plus qu'une raison politique, parce que même les Argentins sont assez conscients que c'est pas un match qui va tout régler. Évidemment, c'est pas un match pour régler une guerre ou des traumatismes passés, mais les joueurs sont conscients. Et d'ailleurs, c'était un peu le discours également en 86, hein, c'était la même chose pour l'époque de Maradona. Ils avaient dit qu'il n'y avait pas de politique à mettre là-dedans. Maradona l'avait dit, Bilardo également sélectionneur à l'époque. Mais en fait, ils savent que c'est un match qui peut vraiment rendre heureux les Argentins. En fait, c'est un match qui, dans la symbolique, une défaite contre l'Angleterre est plus douloureuse, on va dire, que contre d'autres. On est sous la politique, mais juste dans la représentation de ce que c'est pour eux.
Là, c'est l'aspect négatif, mais pensons également à l'aspect positif. Messi, qui n'a jamais affronté les Anglais, Jérôme, imagine si, au-delà du statut qu'il a déjà dans le foot argentin, si en plus il élimine les Anglais. Mais là, c'est complètement dingue, Jérôme. Ça fait encore un truc en plus, une ligne de plus au palmarès de Léo Messi.
Oui, c'est possible. Mais moi, je suis assez d'accord, complètement même d'accord avec l'analyse de Dugas. Tu vois, moi, on donne beaucoup trop d'importance au résultat d'un match de football. On parle de passion de foot, on parle de demi-finale de la Coupe du Monde pour se qualifier pour une finale de Coupe du Monde. Voilà, le bonheur dans tous les cas, que ça soit les Anglais en face ou que ça soit les autres. Alors peut-être que pour certains, ça va être décuplé leur passion du foot et l'euphorie s'il y a une victoire argentine parce que c'est les Anglais. Mais concernant les joueurs, je pense que aujourd'hui la priorité, c'est de faire un bon match, d'être meilleur que les autres matchs pour se donner la chance, encore une fois, de gagner une Coupe du Monde dans quelques jours. Voilà, moi je retiens juste ça. Et puis, outre les problèmes qu'il peut y avoir entre l'Argentine et les Anglais, c'est surtout que pour moi, Argentine-Angleterre, passionné de foot que je suis, bah oui, une des revanches de 86, j'étais gamin, j'ai envie de regarder ce match-là comme ça. Ouais.
Exactement.
Il y a plein de sportifs qui sont en Angleterre aujourd'hui.
En plus. Georges, merci beaucoup. Bon match ce soir. L'After Live dans un instant. After Live intégrale Coupe du Monde avec Nico Jamin autour de cette deuxième demi-finale de Coupe du Monde. Un grand merci à Christophe Dugarry. Bonnes vacances, Dugas. Hein. Reviens en forme à la rentrée. On sera de retour dès le 24 août. Merci Eric Dimeco. Merci Eric. Et Jérôme, nous on revient demain.
Bonnes vacances, Eric.
On flamme demain jusqu'à.
Moi je finis samedi matin.
samedi matin.
Oui, mais chez nous, il est.
Ah, c'est vrai, Eric, tu viens plus chez nous.
Merci pour votre investissement magnifique et à l'année prochaine.
Ah ouais, bravo. Et Jérôme, on se retrouve demain en direct de la brasserie
Flora. Non, on n'est pas en vacances.
Pour analyser la demi-finale.
Analyser la demi-finale et se projeter sur ce match incroyable de la troisième place samedi à 23h. Ça sera en direct, pas en différé, hein, sur RMC, commenté par le grand Jean-Louis Tour. Et ben on parlera de tout ça et on fera encore des débats, bien sûr, sur le France-Espagne, parce que on n'a pas fini. Il y en a encore qui vont prendre demain. Allez, je vous conseille d'être là à 18h pour Rotten sans flamme. Bisous, à demain.
RMC jusqu'à 20h. Rotten sans flamme, intégrale Coupe du Monde.
Vous avez aimé l'émission ? Écoutez tout de suite ce que vous n'avez pas entendu sur RMC. Écoutez le carnet de notes.